Vous auditeurs, nous sommes le 9 juillet, mon nom est Claude Blas. Content de vous retrouver après deux belles semaines de congé quand même, où il a fait très chaud. J'espère que vous n'en avez pas trop souffert et encore pendant le restant de la semaine, ben, il devrait faire du très beau temps quand même. C'est positif pour un bel été. Deux de nos collaborateurs, voilà, sont en vacances, mais j'ai le plaisir de retrouver Franceline Neuviard ce matin. Bonjour Franceline.
Oui, bonjour Claude, bonjour
à chacun. Ça va bien? Vous avez passé un beau congé?
Oui, c'était bien.
Bon,
oui,
profitez au maximum. Alors, oui, de quoi on parle ce matin?
Alors, je vais lire d'abord, parce que ce n'est pas dans cet ordre-là, je pense, un article qui s'intitule « Faire grandir une page à la fois, rencontre avec une lectrice de bonne volonté ». J'ai trouvé cet article dans le journal du Bel Âge de juillet-août 2018 et c'est écrit par Linda Priestley. Et puis, les autres articles seront tirés du journal L'Itinéraire qui, dans sa publication du 1er juillet 2018, traite surtout d'interviews que trois des camelots de L'Itinéraire ont fait avec Justin Trudeau. Alors, je vous parlerai d'abord, je vous lirai l'éditorial de José Panay-Raymond, Une voix qui porte, suivie de questions des trois camelots qui sont Mostapha Lofti, Isabelle Raymond et Jean-Claude Nau. Et puis aussi l'article écrit par Yannick Marcil, Les Kiwis de la liberté. Voilà en gros mon programme pour ce lundi matin.
Assez intéressant ce lundi. De mon côté, trois textes, Malade d'être malade. Imaginez, on parle d'hypochondriaque. C'est un papier de Jeannie Gosselin de la presse que j'ai retrouvé aussi sur le site santépassportsanté.net. Comment traiter une transpiration excessive? On est dans le sujet en ce moment avec la chaleur qu'on vit. Et un troisième article sur le secret de nos larmes. Voulez-vous savoir nos larmes, d'où ils viennent de notre corps? Mais vous allez savoir un peu plus tard dans l'émission. C'est du Sélection Reader's Digest. Alors, on vous revient dans quelques secondes avec Franceline. Bon matin. Alors, Franceline, on y va avec un premier article.
Oui, c'est l'éditorial de José Panay-Raymond, l'éditorial dans le journal L'Itinéraire, et c'est intitulé « Une voix qui porte ». Nous soulignons souvent que l'itinéraire occupe une place spéciale et importante dans le paysage médiatique québécois. Nul autre magazine ne peut se vanter d'offrir un point de vue comme le nôtre sur les grands enjeux sociaux. Ce point de vue, c'est celui de la rue. Celui vécu sur le terrain, branché directement à la communauté. Ce point de vue unique comporte un certain poids et ajoute à la couleur de ce paysage médiatique. Que l'itinéraire fasse partie d'un organisme communautaire qui soutient et autonomise les plus démunis et marginalisés de la société ne fait que renforcer le fait que nous sommes la voix des sans-voix. Qui plus est, que nous soyons un OSBL, c'est-à-dire un organisme sans but lucratif, n'enlève rien à la qualité et à la rigueur de nos reportages, au contraire. Ce statut nous procure une indépendance certaine, puisque nous n'avons pas de compte à rendre à des actionnaires ou des propriétaires qui nous imposeraient une ligne éditoriale. Ces derniers temps, on a suivi avec intérêt ce qui se passe pour nos collègues de la presse. Avec le retrait de Power Corporation, le quotidien de la rue Saint-Jacques a opté pour le modèle OSBL, afin d'assurer la poursuite de ses activités et sa survie. Ce nouveau statut n'enlèvera rien à la qualité de ses reportages, n'en déplaise à ses détracteurs. Par contre, ce que nous vivons à l'itinéraire et ce que vivra la presse une fois que les 50 millions injectés par les démarrés dans la nouvelle fiducie seront épuisés, c'est que le fait de compter sur l'apport philanthropique pour mener une entreprise est tout un défi. Demandez-le au devoir qui, sans le soutien renouvelé de ses mécènes généreux, ne serait plus là. Désormais, nous partageons tous une même réalité, bien qu'à des degrés différents. Je disais que peu importe son statut, l'itinéraire a pour mission d'appuyer ses camelots et participants. Notre but, notamment dans la salle de rédaction, est de faire éclore des talents et de les faire progresser par le biais d'accompagnement individuel, de formation en journalisme, de stages, entre autres à la presse. Une des résultantes de notre mission a été ce que l'on peut qualifier d'événement historique à l'itinéraire. Une entrevue exclusive par nos camelots avec le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. L'article qui en découle et qui est dans cette revue révèle tout le travail accompli avec ces camelots de l'entrevue à la rédaction. Que de chemin parcouru. Quand on sait que Mostapha, Isabelle et Jean-Claude ne participent dans le magazine que depuis 2 à 3 ans. Et quelle fierté pour toute l'équipe de l'itinéraire. Je vous résume un peu le déroulement de cette journée historique. Le 31 mai dernier, nous étions assis dans l'antichambre du bureau du Premier ministre, parmi une dizaine d'autres parlementaires, vêtus de tailleurs ou veston-cravate, cellulaire à l'oreille, l'œil rivé sur leur ordinateur, attendant de rencontrer Justin Trudeau pour régler ses affaires d'État. J'étais impressionné par le calme de nos camelots, Mostapha, Isabelle, Jean-Claude et de notre photographe participant Mario. Debout depuis 4 heures du matin pour prendre le premier train vers Ottawa, nos 4 participants étaient bien préparés, ayant au préalable formulé des questions et approfondi les thèmes qu'ils allaient aborder avec le Premier ministre. Derrière la porte, Justin Trudeau, lui, était aux prises avec une guerre commerciale déclarée par le président Trump, ainsi qu'avec la préparation d'un G7 qui s'annonçait turbulent. Jusqu'à ce moment, nous nous étions même demandé si l'entrevue allait avoir lieu, vu la conjoncture politique alambiquée. Au bout de quelques minutes d'attente, la porte s'est ouverte sur un homme posé et affable qui a pris la peine d'accueillir chaleureusement chacun des membres de la délégation de l'itinéraire. Justin Trudeau a tout de suite mis les camelots à l'aise et a accordé à chacun d'eux le respect et la crédibilité qui leur revenaient. Ici, aucune complaisance. Les camelots ont fait un travail de journalisme selon les règles de l'art et le Premier ministre a répondu à des questions parfois difficiles. Vous dire la fierté qu'ils ont éprouvée, cette expérience demeurera l'une des plus marquantes dans l'histoire du groupe, elle est l'aboutissement de notre mission, et prouve que le travail et la bonne volonté des gens qui veulent s'en sortir donnent parfois des résultats étonnants. Voilà donc ce qu'écrit en éditorial José Panay-Raymond. Et après une petite pause musicale, je vais vous lire quelques questions-réponses des camelots de l'itinéraire. Alors voilà, une première question posée par Mostapha Lofti, qui est celle-ci. L'an dernier, vous vous êtes engagé à faire progresser le droit au logement pour tous les Canadiens. Au plan international, le Canada est signataire de cette déclaration de principe. Pourquoi hésitez-vous à inscrire le droit au logement dans la Charte canadienne des droits et libertés? Et Justin Trudeau répond: nous prenons une approche de logement basée sur les droits de la personne, et ça, c'est différent que de reconnaître le droit au logement. Je pourrais bien dire que vous avez droit au logement, mais si votre logement se retrouve au nord de la Saskatchewan, le fait d'amener le droit au logement de façon trop prescriptive peut mener à des conséquences inattendues qui ne sont pas positives. Notre approche est différente. C'est d'ailleurs une approche qui a été louée par les Nations Unies. C'est de mettre les droits de la personne, le droit à la dignité, le droit au choix, le droit à la santé, le droit à la sécurité au centre de notre stratégie. Tout ça va mener à cette dignité qui est d'avoir un logement sécuritaire et abordable. C'est une approche absolument basée sur les droits de la personne, mais de l'articuler comme certains le prônent, je trouve que ça pourrait avoir des conséquences qui porteraient atteinte à la dignité profonde de l'individu. Une autre question par Isabelle Raymond. Certains de nos camelots qui ont connu l'itinérance sont passés de drogues douces aux drogues dures. Le cannabis a des effets dévastateurs chez les personnes qui souffrent de psychose. Moi-même, j'ai déjà souffert de psychose, dit-elle. Après avoir légalisé le cannabis, que comptez-vous faire pour sensibiliser les jeunes et les personnes à risque? Justin Trudeau répond: D'abord, le travail de sensibilisation ne se fera pas après la législation, mais déjà maintenant et tout de suite. On est en train de faire une campagne de sensibilisation et d'investir pour qu'il y ait une meilleure compréhension de l'impact du cannabis, de l'impact néfaste sur les individus et sur la société. On a constaté que l'approche actuelle ne fonctionne pas. C'est trop facile pour un jeune d'avoir accès actuellement au cannabis et le crime organisé fait tous les profits. Nous, on veut pouvoir contrôler et réglementer le cannabis pour que les profits soient investis dans le système de santé et dans les campagnes publicitaires pour encourager les gens de ne pas en consommer. Il y a aussi un élément qui va changer de façon profonde. On voit que pour plusieurs personnes, l'achat du cannabis est un début qui peut mener à autre chose. Pourquoi ? Parce que quand tu achètes du cannabis d'une personne qui a dans son autre poche des drogues plus dures et qui voudrait potentiellement te les vendre, ça peut effectivement mener à d'autres choses. Mais si la vente du cannabis se fait dans un espace contrôlé et réglementé, où il n'y a pas d'autre chose à vendre, ils ne vont pas te vendre du crack ou de la méthamphétamine ou quoi que ce soit, ce ne sera pas la première étape vers des choses pires. Une troisième question par Jean-Claude Nau. Le gouvernement du Québec et la ville de Montréal s'entendent pour laisser aux organismes du milieu le soin de déterminer les priorités en itinérance. On ne connaît pas encore l'approche qu'adoptera Ottawa pour répondre aux besoins particuliers des communautés, car les besoins ressentis à Vancouver ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux vécus à Montréal. Pouvez-vous nous dire si, avant de mettre sur pied de nouveaux programmes, la stratégie fédérale assurera le financement des organismes qui existent déjà dans le milieu ? Justin Trudeau de répondre. Je peux vous dire que notre stratégie et notre approche, c'est de travailler avec le milieu communautaire et de reconnaître effectivement que les besoins et les solutions diffèrent d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre et des fois d'un quartier à l'autre. Les experts sont ceux qui sont sur le terrain, qui font ce travail, qui connaissent leur monde. Ce sont les mieux placés pour aider à cette autonomisation, pour aider à cette réussite et aider à rétablir la dignité et l'insertion dans notre société qui sont si importantes pour moi. Des solutions générées à Ottawa pour appliquer dans le reste du pays sans l'écoute et l'implication pleine des organismes communautaires ne sont pas du tout des solutions. Je peux vous assurer que le ministre responsable, Jean-Yves Duclos, et son secrétaire parlementaire, Adam Vaughan, qui a toujours été un grand expert en matière d'itinérance par son travail au Conseil municipal de Toronto, ont été fortement impliqués là-dedans. On est en train d'écouter et de travailler, et surtout de continuer à valoriser le travail extraordinaire fait par les organismes sur le terrain, les organismes d'économie sociale. Honnêtement, des organismes comme l'itinéraire font un travail magnifique pour restaurer et rétablir la dignité. Cet engagement est positif envers la société. Enfin, une dernière question. Il y en aurait d'autres, mais ce serait un peu long, mais je vous lis la dernière d'Isabelle Raymond. Vous avez choisi d'accorder aux autochtones une importance prioritaire. Vous avez présenté des excuses, créé des commissions d'enquête et vous vous êtes donné des objectifs, par exemple en matière de logement et d'eau potable. Quels problèmes concrets aurez-vous réglé avant la fin de votre mandat ? C'est une très bonne question, mais je vais vous corriger. Ce n'est pas seulement moi qui ai mis une priorité pour les peuples autochtones. À travers le pays, ce sont tous les Canadiens. Pour les Canadiens non autochtones, il était temps de s'engager dans cette réconciliation, d'agir pour rétablir un vrai partenariat dans le respect des communautés autochtones. Je suis très content de pouvoir travailler là-dessus. Il y a des milliers de jeunes qui ont commencé l'année dans de nouvelles écoles qu'on a construites dans les communautés. Des logements, des centres communautaires et des centres médicaux sont en train d'être construits. Il y a aussi des investissements dans la formation et dans la gouvernance qui sont faits dans les communautés à travers le pays. Au niveau de l'eau potable, d'ici la fin de l'année prochaine, on va avoir éliminé énormément d'avis d'ébullition d'eau dans les communautés autochtones. On a promis de les éliminer complètement d'ici mars 2021, mais déjà, à la fin 2019, il est très clair qu'on en aura éliminé énormément. Une des raisons pour lesquelles ça prend du temps, c'est que les avis d'ébullition d'eau sont souvent liés à beaucoup de différents facteurs à l'intérieur d'une communauté. et pour vraiment les régler de façon permanente, ça prend des investissements dans toutes sortes de choses, la formation, l'infrastructure, la gouvernance, pour s'assurer qu'un an plus tard ou trois ans plus tard, on ne se retrouve pas avec le même défi. Il faut faire les vrais changements nécessaires pour assurer la sécurité de ces communautés. Voilà donc quelques questions-réponses lors de cette interview de Justin Trudeau avec trois camelots de l'itinéraire. Il y a d'autres questions, si ça vous intéresse, ben, c'est dans le journal L'Itinéraire du 1er juillet 2018.
Question très intéressante des camelots quand même. Hein? Et bonne participation de notre premier ministre aussi, en même temps. Pourquoi pas? Ah, il va commencer à faire chaud hein, aujourd'hui, même cet après-midi, et avant que ça devienne un peu trop insupportable pour vous. Alors, je vous parle dans quelques instants de comment traiter une transpiration excessive. Put your lips on my skin so I can taste your touch.
D'entendre Patrick McCarthy et la pièce « I've got to make you mine ».
Merci beaucoup. Comment traiter une transpiration excessive? Un papier que j'ai trouvé sur le site de passeportsanté.net et c'est de mise hein, avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Donc, on écrit « Certains transpirent peu, beaucoup, d'autres beaucoup. Et parfois, cela devient tellement gênant que la vie quotidienne et les relations sociales en sont perturbées. » Voici plusieurs recettes à base de produits naturels pour réduire la transpiration et les mauvaises odeurs. Transpirer un peu est une fonction tout à fait normale de notre corps qui régule notre température pour qu'elle reste à 37 degrés Celsius. Tout bascule quand cette transpiration devient excessive. Quand transpire-t-on d'une manière excessive? On dit « Comment savoir si une transpiration est juste ou excessive? » Il suffit de prendre en compte quelques critères. En effet, chaque jour, le corps produit entre 1,5 et 1 litre de sueur pour réguler sa température et la maintenir à 37 degrés. Les personnes qui souffrent d'hyperhidrose, le nom scientifique de la transpiration excessive, perdent environ 3 litres d'eau par jour. Repérez également si vous transpirez la nuit ou d'une seule partie du corps. Cela n'est pas normal et doit vous amener à consulter rapidement votre médecin traitant. Enfin, sachez que l'hyperhidrose secondaire est liée à une pathologie ou à un passage de la vie, entre autres la maladie, la ménopause, les problèmes de thyroïde et l'obésité. Elle ne peut être traitée qu'en soignant la cause principale. Avant toute chose, sachez que l'hygiène corporelle est essentielle pour limiter la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Si vous transpirez beaucoup, il est nécessaire d'être vraiment méticuleux sur la toilette du matin et du soir. Lavez soigneusement vos aisselles, vos pieds, vos mains au minimum 2 fois par jour à l'eau et au savon. Évitez de porter des matières synthétiques et préférez les matières naturelles, entre autres, comme le coton. Avant de recourir aux produits antitranspirants qui contiennent de nombreux agents chimiques ou encore à la chirurgie qui n'est pas sans conséquences, avez-vous pensé à toutes ces recettes naturelles à base de plantes ou aux médecines douces? Cela pourrait vous soulager de manière durable sans déséquilibrer les fonctions naturelles de sudation de votre corps. S'il faut éviter les boissons contenant de la caféine ou les mets très épicés qui font grimper la température du corps, sachez que le thé noir peut mettre fin à une transpiration excessive, ben oui. Il contient de l'acide tannique aux propriétés astringentes et antisudorifiques. Infusez 2 sachets de thé noir dans 3 verres d'eau très chaude, laissez infuser 15 minutes et tamponnez vos aisselles, les pieds et les paumes à l'aide d'un gant de toilette ou d'un coton, et répétez régulièrement ce geste. Toujours localement, voici une recette pour un déodorant naturel et efficace pour resserrer les pores de la peau. Versez 3 cuillères à soupe d'argile blanche, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et des huiles essentielles dans un bol et 10 gouttes de palmarosa. C'est tout à fait naturel. Vous retrouverez ces produits naturellement dans les magasins où ils vendent ces fameux produits. Mélangez à la cuillère en bois jusqu'à dispersion totale des huiles essentielles dans la poudre. Le mélange doit être homogène, sec et sans grumeaux. Vous pouvez ensuite verser ce mélange dans une salière et l'utiliser comme un talc sur les aisselles bien sèches, sur les pieds aussi ou dans les chaussures. La pierre d'alun est aussi un excellent déodorant naturel. Fouillez donc sur Internet, il existe une multitude de recettes à base de citron, de sauge ou d'autres plantes vraiment merveilleuses. Du côté de l'homéopathie, on peut également être également d'un précieux secours si vous transpirez sans raisons apparentes ni pathologie. Parfois, il suffit d'un simple stress, d'une timidité ou d'un manque de confiance en soi pour tremper sa chemise en quelques secondes. Pour faire disparaître les mauvaises odeurs, prenez entre autres du puya, qui est 3 granules 3 fois par jour. Cela agit aussi pour réduire l'anxiété. Des granules de sépia ou de camomilla peuvent aussi être très efficaces. Alors allez voir sur le site de passeportsanté.net. Toutes les informations sont là sur le fameux texte qui s'écrit « Comment traiter une transpiration excessive ». On vous revient dans quelques instants. Alors, Franceline, on poursuit avec vous.
Oui, je complète un peu ce que j'ai, la suite de ce que j'ai lu tout à l'heure, toujours dans le journal L'Itinéraire. Et cette fois, c'est Laurent Soumy qui est un chargé d'accompagnement des participants lors de cette entrevue qu'ils ont eue avec le Premier ministre. Et Laurent Soumy écrit ceci. « Les communautés auront plus de choix. » Les communautés locales pourront désormais déterminer elles-mêmes les meilleures approches pour lutter contre l'itinérance sur leur territoire. Ceci est affirmé par le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, M. Jean-Yves Duclos. Le 13 juin dernier, le ministre a rendu public à Montréal sa mise à jour de la stratégie de lutte à l'itinérance qui portera désormais le nom de « Vers un chez-soi ». Depuis 2015, Ottawa a privilégié l'approche du logement d'abord pour trouver rapidement un domicile fixe aux personnes itinérantes. Désormais, Ottawa mettra de l'avant une approche collaborative ancrée dans les communautés. Le modèle Logement d'abord a démontré qu'il était d'une très grande utilité et il va continuer à être une priorité, a expliqué le ministre. Toutefois, nous ne fermerons pas la porte à toute innovation de la prestation des services ou à toute population vulnérable ou à risque de se retrouver dans la rue. Nous donnerons plus de choix aux communautés, a-t-il ajouté. Le nouveau programme s'adaptera aux personnes plutôt que les personnes s'adaptent au programme. Nous viserons des résultats spécifiques plutôt que d'imposer un modèle spécifique d'intervention. Entre 2015 et 2018, les fonds fédéraux dédiés à l'itinérance sont passés de 12 à 17 milliards de dollars. Ils atteindront 24 milliards de dollars en 2021. Le ministre assure que les communautés déjà désignées, comme Montréal, ne subiront pas de baisse et qu'il pourrait y avoir des aides additionnelles. D'ici le 1er avril 2019, Ottawa et Québec négocieront une nouvelle entente fédérale-provinciale pour s'assurer que les communautés et les municipalités en profitent le plus efficacement possible. Jusqu'à maintenant, les organismes du milieu ont généralement bien accueilli le virage fédéral. On reconnaît l'importance de la prévention et de l'accompagnement des personnes, a souligné le directeur général du groupe L'Itinéraire, M. Luc Desjardins. L'accès au logement reste une clé importante dans la lutte contre l'itinérance, mais les entreprises d'économie sociale comme la nôtre jouent un rôle essentiel dans la quête d'autonomie des personnes en situation difficile. Voilà, donc c'était écrit toujours dans cette revue du 1er juillet 2018, L'Itinéraire. Les communautés ont plus de choix.
Merci, Franceline. Je vous parlais de transpiration. Ben, j'ai retrouvé dans le Reader's Digest un petit texte. Transpirer sur des maths, on sait que les adolescents ne tiennent pas en place. Si vous ajoutez à cela un cours de mathématiques, les voilà qui se trimoussent, s'échangent des petits mots et lancent des boulettes de papier. Ils font tout sauf leurs devoirs. Eh bien, il y a une enseignante qui en passait de mathématiques de la Caroline du Nord qui a installé des petits pédaliers d'exercice pour leur faire faire leur petit examen. Alors, on voit ça ici au Québec aussi. Alors, ça les calme apparemment. Alors, on s'en va directement vers la deuxième partie de l'émission. Restez là.
Écoutez les voix de service.
Il n'y a pas tellement longtemps. Vous vous rappelez au temps du guignol, de la dentelle? On se saoulait le dedans de pathétique. Oh, c'était la belle époque du piano nostalgique. Adieu, rengaine, qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire. Mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié, vous n'êtes plus de notre temps. Restez dans vos musées, ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique. Qui pour quelques sous vous tire deux disques coup sur coup, bah pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont tus, paralysés, qui ne sont plus qu'objets d'antiquité. Qui autrefois faisaient la joie des salons, et ils étaient les grands rois de la chanson. Mais malgré tout, on se souvient de vous. C'est avec regret que l'on vous sait muet. Mais ce soir, moi, je vous aime et je veux que l'on vous chante, vous, que la vie retranche. De même, vos frères, les poèmes, ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés
par des boîtes à musique qui pour quelques sous vous tirent du disque coup sur coup. Bah pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont eus paralysés et qui ne sont plus qu'objets d'antiquité, qui autrefois faisaient la joie des salons et ils étaient les grands rois de la chanson. Adieu, rengaine, qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire, mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié. Bah pourtant, il n'y a pas tellement longtemps. Non, mais vous vous rappelez au temps du guignol, de la dentelle? Oh là là, on se saoulait le dedans pathétique. Ah, c'était la belle époque. La belle époque. Du piano nostalgique.
Retour avec ce classique de 1961, Monsieur Claude Léveillé, cette grande chanson, Les vieux pianos.
Alors, Franceline, on poursuit.
Oui, alors je poursuis cette fois avec un article tiré du journal du Bel Âge de juillet-août 2018 et qui s'intitule d'abord comme ceci, « Rencontre avec une lectrice de bonne volonté ». C'est donc le récit d'une bénévole qui donne aux jeunes le goût de voyager par les mots et l'imaginaire. C'est écrit ceci, c'est en apercevant un cercle d'enfants autour d'un bénévole lecteur dans une école à Longueuil que Colette Parère a immédiatement su ce qu'elle voulait faire durant sa retraite. « J'ai eu un coup de foudre », s'exclame l'ancienne chef d'entreprise dans le domaine du tourisme. Depuis 10 ans maintenant, elle se dévoue à titre de bénévole lectrice de l'association « Lire et faire lire ». Elle a été aussi présidente du CA pendant près de 7 ans. On y devient vite accro, assure-t-elle. À un petit garçon qui me demandait pourquoi je venais chaque semaine sans être payé, j'ai répondu « mais parce que j'aime me retrouver avec vous et que j'aime la lecture ». Entre la grand-maman dont les petits-enfants vivent à Toulouse et ses petits-enfants empruntés, dit-elle à la blague, des liens précieux se tissent au fil de l'année scolaire. Rien ne me fait plus plaisir que de percevoir l'excitation dans leurs yeux quand on arrive et l'affection qu'ils nous portent. L'expérience se voulant d'abord ludique, notre bénévole lectrice sélectionne elle-même les ouvrages qui serviront à captiver son jeune public. Les enfants me demandent souvent « Que faisais-tu avant d'être vieille ?» Je leur explique alors que mon rôle consistait à faire de beaux voyages aux gens. Aujourd'hui, je choisis des histoires qui ont lieu dans d'autres pays et j'apporte toujours ma carte du monde quand je lis des ouvrages aux enfants. Une façon divertissante de les intéresser à la lecture et de stimuler leur imaginaire. L'initiative sert aussi à briser l'isolement des lecteurs aînés. Quand on a été actif toute une vie, il n'est pas question de tricoter ou de jouer au golf toute la journée, affirme la dynamique retraitée. En s'engageant de cette façon, on sort de chez soi et on échange avec d'autres bénévoles lecteurs. En plus, ça nous aide à nous sentir utiles et à renforcer notre estime de soi. Les bienfaits sont si grands de part et d'autre que la Montréalaise d'origine s'efforce de convaincre les gens de son âge de devenir bénévoles lecteurs, y compris ceux de la municipalité de Saint-Augustin où elle vit désormais. C'est un pur bonheur de s'asseoir par terre avec des enfants et de les écouter raconter leur semaine. Vous savez, on a encore de l'affection à donner. Alors cette dame, Colette Parère, a cité l'association Lire et faire lire et je vous lis ceci à ce propos. Faire grandir une page à la fois. Le programme intergénérationnel en lecture de l'association Lire et faire livre et faire lire, fondée par l'auteur Alexandre Jardin en France, s'opère dans les écoles et les services de garde en collaboration avec les bibliothèques et la communauté. Il fait appel aux gens de 50 ans et plus qui acceptent de lire 1 heure par semaine à un petit groupe d'enfants de 4 à 8 ans durant l'année scolaire. L'idée principale est de former les petits par la lecture afin de favoriser leur réussite dans la vie et de reconnecter des générations, explique Laure Collin, chargée du développement et de la promotion. On veut devenir lecteur à notre tour, même si on est un conteur inexpérimenté, pas de souci, puisque l'association veille à former et à guider les nouveaux venus. Il peut s'agir d'une personne ayant enseigné toute sa vie et qui souhaite continuer à transmettre le bonheur de lire, ou de quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant et qui désire se reconnecter avec la jeunesse. Ou encore, une personne qui a été trop accaparée par son travail et qui n'a pu lire avec ses enfants autrefois. Mais peu importe notre situation, il n'est jamais trop tard pour devenir un magicien. Il suffit d'aimer la lecture et les enfants. L'invitation est particulièrement lancée aux messieurs, renchérit Colette. Ils sont plutôt rares dans le cercle des bénévoles lecteurs. Or, les petits-enfants ont besoin d'images positives tant des hommes que des femmes d'âge mûr. Voilà, alors si vous êtes intéressé pour lire et faire lire, vous pouvez téléphoner. Il y a un numéro de téléphone 579-721-1113 ou lire et faire lire tout attaché .qc.ca. Voilà, c'était Linda Priestley qui écrit cela dans le journal du Bel Âge de juillet-août 2018.
Merci beaucoup. Je vous reviens avec un texte que j'ai retrouvé dans la sélection du Reader's Digest, Le secret de nos larmes. Alors, cette musique ne nous fait sûrement pas pleurer, mais oui, le secret des larmes vient de où? On dit que pendant longtemps, les chercheurs se sont davantage penchés sur les émotions que sur les processus physiologiques qui en résultent. Les scientifiques ne s'intéresseraient pas aux papillons dans notre ventre, mais aux sentiments amoureux lui-même. Écrit Anne van Gerhardt, professeure à l'université de Tilburg aux Pays-Bas et spécialiste de la question lacrymale dans son livre « Why Only Humans Weep ». Mais comme il le fait observer avec d'autres spécialistes, le fait de pleurer dépasse la simple manifestation de tristesse. Les larmes sont déclenchées par un ensemble de sentiments allant de l'empathie à la surprise et de la colère au chagrin. Contrairement aux papillons dans notre ventre qui, lorsqu'on est amoureux, battent des ailes en silence, les larmes, elles, sont bien visibles. Ces notions jouent un rôle déterminant dans les nouvelles réflexions menées en science des larmes. Des siècles durant, on a pensé que les larmes naissaient dans le cœur. Au XVIIe siècle, on supposait que les émotions, et notamment l'amour, faisaient monter la température du muscle cardiaque qui se mettait alors à produire de la vapeur d'eau pour se refroidir. Cette vapeur s'élevait jusqu'à la tête et se condensait dans les yeux pour se transformer en larmes. Par contre, en 1662, un scientifique danois, Niels Stensen, a fini par découvrir que la glande lacrymale constitue le véritable point de départ de la production des larmes. Dès lors, les scientifiques ont commencé à s'intéresser de près aux avantages que pourrait représenter ce fluide jaillissant des yeux. Selon Niels Stensen, les larmes n'avaient qu'une fonction, assurer la bonne lubrification de l'œil. Dans son ouvrage, Anne van Gerhardt identifie 8 théories concurrentes, dont certaines parfaitement absurdes. L'une d'elles, datant des années 1960, soutient que les êtres humains descendent de singes aquatiques et que les larmes seraient un vestige d'une époque où elles aidaient nos ancêtres à vivre dans l'eau salée. D'autres ont la vie dure, malgré l'absence de preuves pour les étayer, comme cette idée rendue célèbre par William Frey en 1985, qui dit « pleurer permettrait d'évacuer les toxines contenues dans le sang, particulièrement abondantes en période de stress ». Les preuves s'accumulent en faveur de nouvelles hypothèses plus convaincantes. L'une d'elles soutient que les larmes suscitent le lien social et le contact humain. Dès notre plus jeune âge, nous pleurerions afin d'instaurer un contact avec les autres. Pleurer signale à vous-même comme aux autres que ça ne va pas du tout et que vous n'arrivez momentanément pas à faire face à certaines situations, explique Jonathan Rothenberg, chercheur spécialiste des émotions et professeur de physiologie à l'Université de Floride du Sud. De nouvelles recherches révèlent également que l'on pleure dans le but de provoquer chez les autres une réaction que la détresse seule ne suffit pas à susciter. Dans une étude publiée en février 2016, des chercheurs ont découvert que les larmes engendrent la compassion. Après avoir présenté la photo d'une personne en larmes à des sujets, ceux-ci se sont déclarés généralement plus en phase avec elles que lorsqu'elles étaient montrées sans larmes sur une photo retouchée. Des scientifiques ont découvert que la composition chimique des larmes émotionnelles était différente de celle des larmes que l'on verse en coupant des oignons. Elle contiendrait un effet davantage de protéines. Une des hypothèses avancées est que cette différence augmenterait leur viscosité. Elles adhéreraient mieux à la peau, couleraient plus lentement et seraient plus facilement visibles par les autres. Les larmes signalent notre vulnérabilité, désolé, à nos semblables, une dimension essentielle aux rapports humains. Ce sont les mêmes ondes du cerveau qui s'activent lorsqu'on voit une personne émue que lorsqu'on éprouve soi-même cette émotion, explique Michel Timbal, spécialiste en neurologie du comportement à l'Université College de Londres. À un moment précis de l'évolution, les larmes ont dû déclencher l'empathie et la compassion chez l'autre. Une théorie moins réconfortante met en avant le rôle d'outil de manipulation des larmes. Voilà. Certains chercheurs estiment que si les bébés en usent pour obtenir ce qu'ils veulent, il en va de même pour les adultes qui agissent sciemment ou non. C'est une chose que l'on apprend vite. Pleurer neutralise la colère de l'autre de manière très efficace, explique Jonathan Rothenberg. Pour lui, les larmes sont indissociables des querelles d'amoureux, notamment lorsqu'on éprouve de la culpabilité et cherche le pardon de l'autre. Selon une étude publiée dans la revue Science, la composition chimique des larmes des femmes réduirait l'excitation sexuelle des hommes, imaginez. 24 d'entre eux, à qui l'on a fait sentir l'odeur de larmes féminines, ont déclaré éprouver moins d'excitation sexuelle devant des photos de visages de femmes. Chez les 50 autres hommes, ces mêmes larmes ont nettement réduit le taux de testostérone contenu dans leur salive. Alors voilà, c'est un article que j'ai retrouvé dans le Reader's Digest, la sélection du Reader's Digest, en fait, qui date quand même de quelques temps, de janvier-février, mais je le trouvais extrêmement intéressant. Alors voilà, on vous revient dans quelques instants avec Francine. Alors, Francine, on poursuit avec vous. Le temps de prendre une petite gorgée d'eau pour moi.
Oui, c'est ça. Ben, moi, je vais vous parler des kiwis. Enfin, disons, c'est le titre du texte écrit par Yannick Marcil dans le journal L'Itinéraire du 1er juillet 2018 et qui s'intitule « Les kiwis de la liberté ». Nous consommons ce que nous désirons. Nous choisissons l'emploi qui nous convient. Et dans la mesure du possible, nous plaçons le produit de nos épargnes dans des placements qui nous conviennent. Pourtant, nous voilà plus que jamais asservis aux diktats de la consommation, c'est-à-dire, malgré nous, à ceux de la performance au travail, et tout cela coincé dans un monde en constante accélération au cœur duquel nous sommes de plus en plus endettés. Mais, nous dit-on, nous n'avons jamais été aussi libres. La fluidité du marché et la déliquescence de l'État feraient de nous des êtres humains libérés de contraintes qu'ont vécues nos ancêtres. Car enfin, la voie est libre. Nous pouvons désormais non seulement bénéficier des avancées de la technologie, mais aussi changer, en grande partie grâce à elle, de métier et de mode de vie, comme bon nous semble. Imaginons un seul instant un paysan du XIIIe siècle en France. Son avenir est tracé d'avance, sa liberté de conscience et de mouvement totalement limitée. Il n'y avait absolument aucune possibilité pour lui de changer de vie. Aujourd'hui, nous avons l'impression de ne vivre aucune de ces contraintes. Je me souviens qu'enfant, dans les années 70, ma mère avait acheté pour la première fois un kiwi. Fruit exotique s'il en était, brun, poilu, peu appétissant a priori, mais cachant une chair d'un vert aussi vif que doux et sucré au goût. C'était à l'époque un luxe. J'ai souvenir qu'il en coûtait $1 pour un seul fruit, alors qu'on peut en acheter maintenant un petit panier pour quelques dollars. De la même manière, lorsque j'étais jeune adulte, les sushis étaient rares et fort coûteux. Ils étaient un mets de luxe, un repas que nous dégustions en respectant les coutumes japonaises. Quelques années plus tard, à peine, les sushis sont devenus aussi communs que banals dans toutes les aires de restauration des centres commerciaux. Un documentaire fascinant, Jiro Dreams of Sushi, raconte l'histoire de Jiro Ono, maître japonais du sushi. Son minuscule restaurant, situé dans une station de métro, accueille quotidiennement des amateurs de cette délicate nourriture. Ce monsieur est véritablement un grand artiste. Ses sushis ne sont tellement pas banals que son modeste commerce est l'un des rares à s'être mérité 3 étoiles au guide Michelin. Du coup, on se presse à sa porte, de partout dans le monde, pour venir goûter à ses sushis. Alors, de l'unique kiwi que ma mère achetait à grand prix dans les années 70 et que nous dégustions avec ravissement aux sushis qui sont accessibles dans n'importe quel centre commercial à côté des hamburgers de McDonald's, nous avons acquis la certitude que notre liberté comme consommateurs et citoyens du monde est totale. Voilà à notre portée, grâce aux revenus de notre travail, une nourriture abondante, délicieuse, variée et peu coûteuse. Pourtant, ne s'agit-il pas là de l'image même de notre asservissement à un système économique qui nous dépasse complètement ? D'une fausse liberté, puisque pour nous faire accepter nombre de choses qui minent fondamentalement nos libertés. Car voilà que le capitalisme contemporain nous contraint à une fausse liberté à laquelle nous adhérons avec la même joie et avec le même enthousiasme que nous consommions ces kiwis et ces sushis. Une liberté perçue qui oublie que cette consommation est tributaire de longs transports par bateau, brûlant des tonnes de pétrole. La liberté n'est pas une marque de yogourt, on le sait. En revanche, on n'accepterait pas de se passer de fraises en février. Cela entraverait notre liberté de consommateur. Voilà une belle réflexion de Yannick Marcille à propos de notre liberté asservie. Voilà, c'est dans le journal L'Itinéraire du 1er juillet 2018.
Merci beaucoup, Franceline. On s'en va à la pause musicale et je reviens tout de suite après avec un texte. Malade d'être malade.
Ça vous met de l'eau dans les yeux. Le bonheur fait rire aux larmes les enfants et les amoureux. Mais la grande tristesse que l'on ne peut plus supporter, ça ne fait plus pleurer, non, ça fait rire aux larmes, rire aux larmes. Ça arrive en plein bonheur de rire aux larmes. Joie cherche à culbuter. Que c'est drôle en mourir, quelqu'un qui tombe sur le nez. Et comme de toute façon on ne peut vraiment rien changer, plutôt que de pleurer, c'est mieux de rire aux larmes. Rire aux larmes, c'est facile en plein bonheur de rire aux larmes. Rire aux larmes, rire aux larmes, c'est possible en plein malheur de rire aux larmes. Que l'on ne peut plus supporter, ça ne fait plus pleurer, non, ça fait rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Bye.
la chanteuse Julie Massicotte qui reprenait cette pièce de Jean Lapointe, Rire aux larmes.
Voilà en lien. Malade d'être malade, on parle d'hypochondriaque. C'est un papier que j'ai retrouvé de Janie Gosselin sur le site de La Presse qui écrit ce qui suit. La peur d'être malade les empêche de vivre, au point parfois de leur donner envie de mourir. Si la crainte de la maladie est normale et même saine, elle peut devenir un trouble mental envahissant. Témoignage sur des difficultés qui n'ont rien d'imaginaire. Radiographie, test d'urine, prise de sang, gastroscopie. Au fil des ans, Daniel Moulin a passé de nombreux examens médicaux. Résultat, rien d'anormal. Je me disais, ils ont manqué un cours à l'université sûrement. Ça ne se peut pas, dit la femme de 56 ans. C'est que sa douleur au ventre était si vive qu'elle la pliait en deux. Son cœur s'emballait. Même l'eau lui donnait l'impression de brûler son estomac. Elle était convaincue d'être gravement malade. Son anxiété est devenue envahissante lorsqu'elle était dans la vingtaine. En riant, la volubule retraitée s'identifie comme « all dressed ». Elle a souffert au cours de sa vie de troubles de panique, d'agoraphobie, d'hypochondrie, de claustrophobie notamment. Pendant longtemps, elle a évité les endroits où l'ambulance ne pourrait pas l'atteindre rapidement. Elle est restée près de l'autoroute métropolitaine, elle avait les ascenseurs, elle s'est confinée à un périmètre de Montréal bien défini, à proximité des hôpitaux. En 2013, avec la 5e édition du manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux, l'Association américaine de psychiatrie a revu sa façon d'évaluer différents troubles. La catégorie remaniée de troubles à symptomatologie somatique ou apparenté met l'accent sur les préoccupations ou comportements excessifs d'une personne face à la maladie. Le terme « hypochondrie », jugé péjoratif, a disparu. Le nombre de critères a été réduit. Il est donc trop tôt pour savoir si ces changements ont entraîné une hausse du nombre de cas diagnostiqués, comme des critiques l'appréhendent. On estimait à moins de 1% le nombre d'hypochondriaques, alors que la catégorie plus vaste de troubles somatoformes aurait touché environ 19% des gens. Donc, on peut penser que c'est probablement intermédiaire autour de 7%, dit la docteure Judith Brouillette, psychiatre et chercheuse au département de psychomatique de l'Institut de cardiologie de Montréal, soulignant l'absence d'études récentes. La pression est tout de même importante sur le système médical. Une étude publiée en 2010 dans le General Hospital Psychiatry estimait que 40% des patients consultant un médecin pour des palpitations souffraient en fait d'un trouble anxio-dépressif. Les gens avec un trouble anxieux utilisent environ deux fois plus les soins de santé que les autres. Deux fois plus de visites, c'est plus de sous, plus d'investigations, note la docteure Brouillette. Elle souligne qu'il est difficile pour un médecin de ne rien faire. Mais s'il vaudrait mieux traiter de façon proportionnelle au risque pour le bien-être du patient et du système. C'est d'autant plus problématique lorsque les patients consultent différents médecins. L'hypochondrie est une maladie du doute. La personne a besoin de chercher une autre source pour se rassurer, dit Frédéric Langlois, directeur du département de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui distingue ceux qu'on appelle encore couramment les hypochondriaques, qui sont persuadés d'être gravement malades, des autres ayant une crainte moins intense. C'est comme une drogue. La personne consulte et ça apporte une baisse de l'anxiété momentanément. Frédéric Langlois, directeur du département de psychologie à l'UQTR, dit « Les médecins de famille et la psychothérapie sont la clé, selon lui. Il faut que la personne ait un seul médecin et qu'il détermine à partir de quand c'est urgent qu'il y ait une entente pour dire « OK, on va attendre 3 semaines et voir avant de passer » à la prochaine étape. Blog et forum sur la santé, liste des symptômes à avoir à l'œil, test pour s'auto-diagnostiquer des maux, le web regorge d'informations sur les maladies. La tendance à se tourner vers Internet au moindre bobo a même engendré un néologisme dans le langage populaire, cyberchondrie. Comme bien des jeunes de 18 ans, Jade Gauthier ne se départit jamais de son téléphone. Elle estime s'en servir la moitié du temps pour les réseaux sociaux. Et les 50% restants, elle lit sur des maladies. « Si j'ai mal à la tête, sur les tempes, je regarde sur Internet », dit l'élève en arts et lettres. « C'est peut-être un cancer », je regarde les symptômes, à longueur de journée. Assise dans un café, les jambes croisées, elle se tord les mains et sourit nerveusement. Ici, je regarde les gens et j'appréhende que quelqu'un fasse une crise cardiaque, confie-t-elle. Je n'ai pas juste peur de ce qui est contagieux, j'ai autant peur pour mon corps que pour les autres. Alors voilà, c'est un papier que j'ai retrouvé sur le site de la presse. C'est un papier de Janie Gosselin. Eh bien, merci Franceline pour cette merveilleuse émission. Merci à Jean-Sébastien à la technique. On vous dit, on vous souhaite une excellente semaine et restez à l'antenne parce qu'il y a François Brodeur qui s'en vient avec l'émission Le quotidien des quotidiens. Une excellente semaine à vous tous.
Oui, bonne semaine.